Bonjour à tous. Et bienvenue à l'ES Grenoble, question évangélique. En cette saison estivale, vous savez aussi bien que moi que l'été, c'est la saison du mariage, n'est-ce pas? On a eu quelques-uns. Et justement, le week-end dernier, j'étais à Paris pour célébrer le mariage d'un cousin. Le mariage s'est très bien passé dans l'ensemble. Mais ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que vendredi, 6h du matin, vendredi à une semaine, à mon départ, j'étais triste. Et lundi matin, à 10h42, à mon retour sur Grenoble, j'étais joyeux. Surprenant. L'explication est simple. En région parisienne, j'ai rencontré plusieurs personnes. Mon frère, mon cousin, ma belle-sœur maintenant qui était ravissante. Et toutes ces rencontres ont eu un impact sur moi. Sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Bref, ces rencontres m'ont ressourcé. Et de même, le texte de ce matin relate l'histoire d'une rencontre. Une rencontre. Il s'agit de deux personnes qui vont rencontrer Jésus. Et croyez-moi, aucune de ces deux personnes ne ressortira indemne de cette rencontre. Pour cela, nous allons rejoindre Luc. Donc Luc, c'est l'auteur d'un livre de la Bible duquel est extrait notre passage de ce matin. Luc, du coup, était médecin et il écrit avec un but bien précis que j'aimerais vous partager. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer. Excellent Théophile, de manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, le destinataire de la lettre, était un haut dignitaire qui, selon le texte, avait reçu un enseignement sur Jésus. Toutefois, il avait probablement quelques incertitudes quant à l'authenticité, la véracité de ses enseignements. Et ce matin, si comme Théophile, tu te poses des questions sur Jésus, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu es au bon endroit et au bon moment. Car ce matin, nous allons rencontrer Jésus, qui s'est, comme on l'a dit dans nos prières, approché pour un seul but, pour sauver. Nous allons le rencontrer au travers d'un texte de la Bible. Il s'agit de Luc, comme je l'ai dit, Luc 7. Donc Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Luc 7. Versets 36 à 50. Nous allons lire en trois volets. Dans le premier volet, nous allons nous contenter des versets 36 à 39. Ensuite, on aura un deuxième volet, les versets 40 à 46. Et enfin, les trois derniers versets, les versets 47 à 50. Donc, j'enchaîne avec les versets 36 à 39. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme, pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. Et c'est ce qu'elle est, une pécheresse. » Voilà pour le premier volet de notre texte de ce matin. De toute évidence, Jésus est au centre de toutes les attentions dans ce passage. Regardez avec moi au premier verset. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus est l'invité. et un invité est privilégié, c'est une personne privilégiée. De notre côté, dans cette ambiance festive, voilà qu'une femme fait irruption dans la maison, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle adopte une attitude surprenante. Une attitude surprenante. Le constat est flagrant. On a deux personnages qui ont deux attitudes complètement différentes vis-à-vis de Jésus. Pourquoi cette différence? D'un côté, on a le pharisien. Dans la Bible, le mot pharisien renvoie à un chef religieux, adepte du pharisianisme. Je vous ai beaucoup aidé. Alors, le pharisianisme était un courant juif, je cite le dictionnaire biblique. L'idée, c'était qui ramenait la religion à l'observation de la loi et enseignait que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. Il fallait observer la loi de Moïse et derrière se conformer, obéir au commandement pour avoir la grâce de Dieu. Il fallait donc obéir, rien qu'obéir, et ce, de façon stricte. Conséquence, la disposition du cœur avait moins d'importance que l'acte extérieur. Par exemple, vous pouvez aider une personne avec de très mauvaises intentions. Et c'était très bien. Pourquoi cette différence entre les deux personnages? Pour le pharisien, la réponse se trouve au verset 39. Regardons le texte, 39. À cette vue, le chef religieux qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait que la femme qui le touche, qui est la femme qui le touche ?» La réponse se trouve dans le « si ». « Si cet homme était prophète. » En pensant ainsi, le chef religieux nous montre clairement que pour lui, Jésus n'est même pas un prophète. « Si cet homme était prophète. » Le texte nous offre deux indices pour l'attester. Premier indice, pour le chef religieux, Jésus se laisse faire. Son inaction montre qu'il ne sait pas qui il a en face de lui. Deuxième indice, pour le chef religieux, un vrai prophète veut se maintenir pur. C'est normal. Par conséquent, il ne peut tolérer la présence et les agissements d'une prostituée. La femme était bien connue dans la ville. Et c'est probablement pour cette raison que le pharisien la connaît. Mais comme vous pouvez le voir dans ce texte, le Jésus que nous voyons, que nous rencontrons au travers de ce texte, ne partage pas ce point de vue-là. Ce qui nous amène à une première réflexion. Quelle image avons-nous de Christ? Quelle image avons-nous de Christ? Qui est Jésus pour nous? Votre réponse est-elle juste, bibliquement? Pourquoi? Pourquoi pas? Comme vous pouvez le constater, rencontrer Jésus, c'est clarifier l'image que nous avons de lui. Et comme le chef religieux, nous pouvons être surpris de qui est Jésus. Nos idées reçues, les on-dit sur Jésus, peuvent voler en éclats à mesure que nous le rencontrons dans sa parole. Et le deuxième constat qui découle de ce texte est le suivant. Ce que nous savons de Christ détermine notre manière de vivre notre relation avec lui. Ce que nous savons de Christ détermine notre manière de vivre notre relation avec lui. Alors, vous connaissez tous Antoine Griezmann maintenant? Oui, non? Peut-être? Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Rejoignez-nous ce soir, ici dans ces locaux, pour voir le match de la finale de l'Euro. Antoine Griezmann est actuellement le meilleur buteur de l'Euro. Il a fait la une de tous les journaux, ce soit en France, en Espagne, enfin, de partout. Et si vous étiez amené à le rencontrer, vous serez probablement admiratif. Enfin, je parle surtout pour les Français. Je comprends bien qu'en cette période, être allemand, c'est pas forcément une bonne période. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Martin, Monica, je ne sais pas. Tout va bien. Pourtant, ce même Antoine Griezmann, vous le prenez, vous l'amenez dans la classe des petits pas, donc c'est les 3-5, il serait complètement impopulaire parmi eux. Je les vois bien se demander, mais t'es qui toi? C'est qui lui? Les petits passes, il est à la clave des 3-5. Et de même, l'image que nous avons de Christ influence notre comportement vis-à-vis de lui. C'est ce qui explique la différence entre l'attitude d'une part du chef religieux et de celle de la femme d'autre part. Venons-en justement à l'attitude de cette femme. Pour comprendre toute la portée de sa démarche, il nous faut nous considérer la culture juive de l'époque. Nous avons affaire à une prostituée qui se rend chez un chef religieux, qui ose se rendre chez un chef religieux. Autant vous dire que cette situation était impensable pour la société de l'époque. Et justement, si cette femme ose aller à l'encontre de la culture, cela suggère que pour elle, rencontrer Jésus est une chose bien plus importante que sa culture. Elle est prête à subir les conséquences pourvu qu'elle rencontre Jésus et l'adore. Et c'est ce qu'elle fait dans ce passage. Toutefois, son attitude ne peut être que la conséquence d'une réalité qui est déjà présente. Un événement préalable s'est passé avant qu'elle ne fasse irruption dans la maison. Et cette réalité, le chef religieux qui est là, ne la voit pas. Il se heurte à une situation opaque, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a besoin de comprendre. Jésus, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu la laisses faire? Quelle est donc cette cause profonde qui justifie une telle attitude de la femme? Que s'est-il passé dans la vie de cette femme? Que va faire Jésus? Va-t-il laisser le chef religieux avec sa conscience obscurcie? C'est ce que nous allons voir maintenant, dans la deuxième partie, dans notre deuxième volet, donc c'est les versets 40 au verset 46. Je vais lire. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Jésus est conscient de la perplexité du chef religieux, de l'obscurité dans laquelle il est. Et Jésus est en train de voler à son secours pour montrer qu'en fait, le problème n'est pas tant l'attitude de Jésus ou celle de la femme, mais bien son attitude à lui, lui le chef religieux. Regardons cette histoire de plus près. Dans cette histoire, nous avons un créancier, nous avons deux débiteurs, nous avons une dette, clairement, et une expression de reconnaissance qui découle de l'amour. Lequel l'aimera le plus? Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir le lien qui existe entre l'histoire que Jésus raconte et, d'autre part, la rencontre qu'il est en train de vivre actuellement avec le chef religieux et la femme. Quel est donc ce lien? Quel est ce lien? La réponse, encore une fois, se trouve dans le texte. Regardons le texte. Jésus nous donne la réponse, verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Jésus fait le lien entre l'histoire et la rencontre qui a lieu par l'expression de reconnaissance qui découle de l'amour. Verset 44, il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Reconnaissance. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Reconnaissance. Qui découle de l'amour. La femme est reconnaissance. Simon ne l'est pas, alors qu'il devrait. En effet, dans la culture juive de l'époque, les gens se déplaçaient en sandales. Alors, poussière oblige, lorsque vous invitiez une personne pour l'accueillir, vous lui laviez les pieds. C'était la coutume, c'était quelque chose de normal. Et Simon ne l'a pas fait pour Jésus. Finalement, le chef religieux est plus tourné vers la mauvaise attitude des autres que par son manque d'hospitalité. Et dans ce texte, rencontrer Jésus nous amène à être reconnaissant ou indifférent. Soit nous sommes reconnaissants, ou alors nous sommes indifférents. Reconnaissant parce que Jésus a accompli quelque chose dans notre vie, ou indifférent parce que, comme le pharisien, nous avons l'intelligence obscurcie. Nous sommes hypocrites. Alors maintenant que nous avons fait le lien entre l'histoire, il reste, l'histoire de Jésus et ce qui se passe, il reste trois autres éléments. Le créancier, le débiteur et la dette. On sait maintenant que l'expression de reconnaissance découle d'une remise de dette. C'est le texte qui nous le dit. Mais alors, de quel type de dette s'agit-il ? De toute évidence, il ne s'agit pas d'une dette financière. Jésus n'était pas connu pour être très riche. Et on le voit bien dans le texte, la dette dont il est question ici concerne en même temps et le chef religieux et la femme. Quelle est donc cette dette ? Et pourquoi le religieux et la femme sont-ils concernés ? La réponse se trouve dans la description que Luc nous donne sur la femme. Regardez au verset 37. « Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. » Une femme pécheresse. Le mot pécheresse renvoie naturellement à péché. La dette ici renvoie au péché. Et face à cette dette, Jésus lui-même nous informe que nous sommes incapables de payer. C'est ce qu'il nous dit au verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer. La dette est trop importante pour le chef religieux et pour la femme. Nous sommes incapables de payer cette dette-là. Imaginez un instant que vous devez 200 millions d'euros à votre banque. Rien. À votre avis, combien de temps est-ce qu'il vous faudrait pour rembourser cet argent ? Combien de temps ? Je me suis posé chez moi, j'ai fait le calcul. Déjà, je me suis dit, bon, pour lui, il va falloir que tu retournes chez papa et maman pour ne plus payer de loyer. Et ce qui me permettrait d'avoir des remboursements un peu conséquents. Donc, j'ai tablé sur 500 euros par mois pour ma dette. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Déjà si j'arrive à mettre 500 euros par mois, hein, c'est déjà très bien, je pense. Enfin, à l'heure actuelle. Voilà, merci. Du coup, 500 euros par mois, 500 euros fois 12, rapidement, calcul mental. 3, 2, 1, 6 000 euros. 6 000 euros l'année de remboursement. Ok, maintenant une petite règle de 3. 200 millions divisé par 6 000 euros. Allez, prends cher, dis mieux. Quelqu'un, un nombre. 200 millions d'euros divisé par 6 000 euros, ça fait 33 333 années. 33 333 années. Autant vous dire que ça me ferait une dette à vie, et il va falloir créer un nouveau concept de la dette à mort aussi. Parce que nous sommes en 2016, on est encore égal en 10 000, dans 20 000, dans 30 000, et ainsi de suite. De même, devant Dieu, nous sommes endettés, je dirais même surendettés. Et rencontrer Jésus, c'est reconnaître son péché. C'est réaliser que nous sommes endettés, nous sommes sous l'eau. Pour demander à ce Jésus-là une remise de dette, vu que lui seul peut le faire. Mais j'aimerais souligner un aspect dans ce texte. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de dette au pluriel, mais d'une dette au singulier. Par là, je veux nous montrer qu'il ne s'agit pas seulement des actes que nous posons. En effet, dans la Bible, le péché ne concerne pas d'abord des actes. Les actes ne sont que la conséquence du péché. Le péché, c'est d'abord un état, l'état d'un homme sans Dieu, sans Jésus. L'exemple parfait dans ce texte, c'est le pharisien, qui n'a pas Jésus, qui est un homme sans Christ. Et cet état se manifeste par une désobéissance à la loi de Dieu. L'offensé ici, c'est Dieu. Et c'est pour cette raison que c'est lui le créancier. Et la désobéissance à la loi, comme on peut le voir dans ce texte, peut être intérieure, enfouie dans nos pensées, c'est le cas pour le pharisien, ou manifeste par des actes de prostitution, comme c'est le cas pour la femme. Au travers de cette histoire, Jésus nous informe que dans les deux situations, il est au courant. Jésus voit tout. Il nous voit ce matin tel que nous sommes, il voit nos pensées, il voit nos semaines, il voit les actes que nous avons posés, il voit tout. Et la vérité dans le texte, c'est que la femme, comme le religieux, sont tous deux pécheurs et ont besoin d'un sauveur. Pour l'instant, seule la femme a compris. Mais par ces questions que Jésus pose, Jésus est en train d'amener le pharisien, le chef religieux, à se poser les bonnes questions. Et ce matin, pour nous, est-ce que Jésus est en train de vous interpeller? Là, maintenant. J'ignore ce qu'on vous a dit sur le message de la Bible. Je vous propose un petit résumé. La Bible, c'est une histoire d'amour entre Dieu et sa créature. Une histoire d'amour entre Dieu et sa créature. Cette rencontre s'est soldée par une infidélité, une désobéissance. Et à partir de ce moment-là, nous sommes tous, autant que nous sommes ici, débiteurs devant Dieu. Notre compte est en rouge, à vie. Et comme le texte nous l'apprend, notre dette, on ne peut pas la rembourser. Jésus nous le dit dans ce texte. Et cette histoire d'amour se solde par ce Dieu-là qui vient, qui descend, en la personne de Christ, pour prendre notre dette. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque si notre dette n'est pas payée. On n'a aucune vie. Il y a un risque. Et le risque, c'est d'être endetté, d'être dans le rouge, devant Dieu, pendant notre vie sur cette terre jusqu'à notre mort. Et à ce moment-là, nous sommes endettés à vita aeternam. Nous sommes éternellement endettés. Et si nous mourons sans avoir réglé notre dette, nous serons éternellement loin de la face de Dieu. C'est ce que la Bible appelle par le péché, enfin, l'enfer, excusez-moi. L'enfer, c'est une vie loin de Dieu, pour l'éternité, la vita éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer de l'enfer. Le terme qu'il emploie, c'est la grâce. C'est dans le texte. Un cadeau immérité. Et c'est justement parce que ce cadeau est immérité que tout le monde peut venir. Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes plutôt, il y a un écart d'un point de vue moral entre le pharisien et la femme. Il y a un fossé, il y a un trou, il y a ce que vous voulez, un abysse, tout ce que vous voulez, il y a un fossé entre les deux. Mais aux yeux de Jésus, il y a deux personnes qui sont perdues et qui ont besoin de son salut. Au travers de l'exemple de la prostituée, Jésus nous montre qu'elle est fausse cette idée selon laquelle je serais allé trop loin. Cette idée est complètement fausse. Et l'exemple de la femme ici est là pour nous montrer. Et de même, on peut prétendre connaître beaucoup de choses sur Dieu, et tout simplement négliger son péché, notre péché. C'est le cas du pharisien. Chère Église, la question du péché est cruciale pour nos vies, autant sur l'aspect individuel que collectif. Et comme vous pouvez le voir dans ce texte, le péché aveugle même un chef religieux, et nul n'est à l'abri. Comme vous pouvez le voir, le péché éloigne ce chef religieux de Jésus et de la femme qui est complètement différente de ce qu'elle était avant. Une question pour nous ce matin. Quelle image as-tu de la personne qui est assise devant toi en ce moment, derrière toi, à ta gauche, à ta droite? Quelle image as-tu des autres personnes dans l'église? Dans mon introduction, je partageais que j'ai quitté Grenoble dans la tristesse. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que cette tristesse découlait en fait d'une vive discussion que j'ai eue avec une personne. Et pendant mon séjour à Paris, je m'ai montré que j'avais un regard qui n'était pas loin de celui du pharisien. Je me sentais innocent, je me sentais blanc que neige. Et que le tort revenait uniquement à la personne en face. C'était complètement faux. J'étais fautif. Et à mon retour sur Grenoble, j'étais joyeux parce que je savais que cette relation allait bientôt se rétablir. J'ai rencontré cette personne par la suite. On s'est demandé pardon. C'était magnifique. Réfléchissons une seconde. À qui profitent les discordes, l'amertume, la jalousie? La réponse est simple, à Satan. Allons-nous le laisser faire? Allons-nous le laisser nous diviser? Voyez-vous, qu'est-ce qui est en jeu? Nous sommes tous concernés. Et si nous nous considérons en tant que disciples, nous devons mener une lutte radicale, intransigeante, vis-à-vis du péché. Où en es-tu ce matin? Dans quel personnage te reconnais-tu? Plutôt dans le pharisien? Ou plutôt dans la femme prostituée? J'ai envie de dire, peu importe, la seule chose qui compte, c'est où est-ce que tu en es par rapport à Christ, devant Christ. Par rapport à ton péché. Tu viens devant Christ et pas devant les hommes. De la même manière que ces personnes ont rencontré Jésus, de même, ce matin, Jésus est présent parmi nous. Et il est là pour nous rencontrer. Et comme dans ce passage, Jésus est auprès des pécheurs que nous sommes dans notre église. Et il est là pour nous rencontrer. Où en es-tu par rapport à ton péché? Qu'est-ce que Dieu te dit avec force, là, maintenant? Jésus est mort et ressuscité pour prendre notre dette. Alors, si comme ce pharisien, tu ne reconnais pas Jésus comme étant celui qui pardonne, qui prend ta dette, je t'invite à regarder à la prostituée qui est dans le texte. C'est ce qu'il nous raconte dans cette histoire. Et si ça ne suffit pas, je t'invite à lever la tête maintenant. Regarde autour de toi. Ça fait 2000 ans, que Jésus transforme des vies. Et ici dans cette église, nous sommes témoins. Des vies sont transformées radicalement. Ouvre les yeux et regarde. Jésus sauve, on l'a chanté tout à l'heure. Et il veut faire la même chose avec toi. Il t'appelle à reconnaître. À le reconnaître lui comme celui qui te prend ta dette. Et si tu es disciple, tu es croyant, Jésus nous appelle à confesser notre péché et à lui exprimer notre reconnaissance. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre texte, où Jésus va continuer à restaurer l'image de sa personne dans la pensée du pharisien. Je vais lire du verset 47 à 50. C'est pourquoi je te le dis, Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se dirent en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Trois affirmations de Jésus, que Jésus nous donne dans ce texte. Première affirmation, l'amour de Dieu découle de son pardon. Tu veux plus aimer Christ? C'est simple. Commence par accepter ton péché et accepte son pardon. C'est alors que Dieu te donnera beaucoup plus d'amour pour lui. Dieu nous donnera beaucoup plus d'amour pour lui. Et de grâce, ne fais pas comme le chef religieux dans ce texte, qui refuse de voir son péché et par ce refus se prive de l'amour pour Christ. Et Dieu nous appelle à vivre cela quotidiennement, à nous le rappeler que lorsqu'on manque d'amour pour Dieu, soyons prompts à confesser nos fautes, demander pardon, parce que c'est lui qui rétablit en nous de l'amour pour nous. L'amour de Christ découle de son pardon. Il t'est offert ce matin. Vas-tu l'accepter? Deuxième affirmation. Jésus est celui qui pardonne et sauve. Comme vous pouvez le voir, les invités sont choqués parce que Jésus pardonne. Qui pardonne si ce n'est l'offensé? Par ces mots, Jésus est tout simplement en train d'affirmer sa divinité. Remarquez qu'il s'adresse aux pharisiens. Il est en train de restaurer une image juste de sa personne. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Et pour être encore plus clair, au cas où ça ne serait pas, il affirme qu'elle est sauvée. Jésus enfonce le clou. Pardonné et sauvé. Oui, Simon, je suis celui qui pardonne et sauve. Par ces mots, Jésus est en train d'inviter Simon à croire en lui. J'ignore ce que vous avez entendu dire sur Jésus, mais voyez par vous-même, Jésus est celui qui sauve et qui pardonne. Que vous le vouliez ou non, Jésus est celui qui sauve, le seul qui sauve et le seul qui pardonne. Et un jour, nous aurons des comptes à lui rendre. Troisième et dernière affirmation, ta foi t'a sauvé. Pour plusieurs personnes, il suffit de croire en Dieu pour être sauvé. J'ai envie de dire, c'est complètement faux. Je répète, c'est complètement faux. Jacques 2, les démons aussi croient, et ils ne sont pas sauvés. Rappelez-vous le verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Nous sommes sauvés par grâce. Et la foi en est un moyen. Et la foi dont il est question ici est une foi en Jésus précisément. Elle nous conduit à reconnaître notre état de pécheur, à rechercher Christ, et ce, en allant même à l'encontre de nos traditions, de nos coutumes, de ce que les gens peuvent penser ou dire. Pourquoi? Pour adorer Jésus. Et c'est ce que la femme fait. Elle s'est reconnue pécheur, pécheresse. Elle a quitté la ville, elle allait dans la maison du pharisien pour une seule raison, rechercher Christ. Elle savait qu'on dirait des choses sur elle. Elle savait que les gens allaient penser quelque chose. Peu importe ce que les gens pensent, pourvu que j'adore Jésus. C'est ça la foi. Elle est centrée sur une personne, c'est Christ. Le texte ne nous dit pas quelle a été la réaction finale de Simon. Et c'est très bien comme ça. Jésus nous pose cette même question ce matin. Quelle va être ta réaction à toi? Deux applications concrètes pour terminer. Comme nous l'avons vu, nous devons nous impliquer à avoir une image juste et vraie de qui est Jésus. Parce que de là découlent plein de choses. Si vous posez des questions sur Jésus aujourd'hui, c'est très bien. Et surtout, ne partez pas à la fin, parce que nous avons au sein de notre Église des parcours découvertes pour vous montrer le message de Christ, vous montrer cet évangile-là. Qui est cette personne? Et c'est gratuit. Ça peut se faire autour d'un thé, une bière, comme vous voulez, au McDo. Si vous êtes déjà croyant, ce texte nous invite à nous assurer que nous avons et gardons la bonne image de Jésus. Et c'est l'été, il fait beau. Et si vous lisez un bouquin, demandez à votre voisin quel est le dernier livre qu'il a lu sur Jésus qui a restauré une image juste de sa personne. Demandez à votre voisin de gauche, de droite. Moi, j'en ai un à vous proposer. C'est un bouquin de Timothée Keller qui s'appelle « Le Dieu prodigue ». Donc, si vous n'en avez pas, ben voilà, « Le Dieu prodigue », j'ai vraiment kiffé ce bouquin. Et je l'ai lu avec quelques-uns d'ailleurs qui sont là, qui se retiennent. Voilà pour cette première application. Deuxième application. De grâce, soyons réconciliés avec Dieu. Y a-t-il un péché que Dieu m'appelle à confesser ce matin? Si c'est trop dur, est-ce qu'il y a une personne qui peut m'aider, un frère, une sœur, à qui je peux en parler pour être redevable, qui peut m'aider? C'est ça l'Église. De grâce, fais-le au plus tôt. Pourquoi pas aujourd'hui? Rencontrer Jésus, c'est être réconcilié avec lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tel que je suis, je n'ai absolument rien. Je suis loin de toi et Seigneur, c'est par ton sang uniquement qui a été versé pour moi. Merci pour cette voix qui m'appelle à toi ce matin à venir, Seigneur. Tu vois combien je suis vacillant, que je change d'avis et même que je passe d'un état à un autre, comme ce pharisien. Et merci parce que tu m'appelles à me rappeler que je ne suis jamais aussi loin, je ne suis jamais allé trop loin de toi pour être loin de ta grâce. Et donne-moi, Seigneur, de ne pas juste avoir des connaissances comme le pharisien de qui tu es, mais vraiment une relation avec toi par la foi. Et merci, Seigneur, parce que toi seul peux le faire dans nos vies. Nous sommes des inaptes, on ne peut pas y arriver, on en appelle à ta grâce. Alors, donne gloire à ton nom dans nos vies, dans ton Église. Amen. Thank you.